10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Le monde ne suffit pas.
Bonjour à tous, l'équipe de LMNSP est ravie de vous retrouver pour le dossier de la semaine.
Bonjour Antoine, bonjour à tous. Cette semaine, nous nous consacrons donc à la situation en Europe de l'Est, 20 ans après la chute de l'URSS, avec l'appui de nos correspondants qui sont Jocelyn à Varsovie, Thibaut à Iași en Roumanie et Laure à Berlin.
3, 2, 1, 0.
Le monde ne suffit pas.
On parle en général de dislocation de l'URSS depuis les événements de 1991. Peut-être faut-il préférer implosion. En effet, si la superpuissance de la guerre froide est tombée, c'est avant tout parce que les États qui étaient sous le joug soviétique proclamèrent un à un leur indépendance, laissant Gorbatchev impuissant face à leur mouvement. Nous sommes alors en octobre 91. Un mois plus tard, les accords de Minsk, signés par les chefs d'État russes, ukrainiens et biélorusses, ratifient la fin de l'URSS et la naissance de la communauté des États indépendants. Pour tous les États de l'ex-URSS, alors, le défi à relever était multiple. Que faire de cette autonomie? Comment, pour les États, retrouver une légitimité politique? Comment résoudre les crises sociales qui ont accéléré la chute du géant communiste? Bref, nous avons assisté ces dernières années à la naissance de nations. Le dossier de la semaine de LMNSP est consacré à ces nations, désormais partie intégrante de l'Union européenne. La Roumanie et la France soutiennent ainsi main dans la main la PAC actuelle de l'Europe. Mais la donne macro-régionale a conduit à la naissance d'États différenciés et qui revendiquent chacun une place différente sur la scène internationale. C'est à l'ensemble de ces questions que nous allons tenter de répondre avec nos correspondants en Pologne, en Roumanie et à Berlin. Avant de les interroger, Antoine, revenons sur l'extraordinaire évolution de ces États ces 20 dernières années, qui les a conduits à intégrer l'Union européenne pour beaucoup d'entre eux. À quels critères répondaient-ils en 2004 et 2007, année des deux vagues d'intégration ?
Il y a trois critères principaux. Un critère politique qui est celui de la présence d'institutions stables qui garantissent la démocratie, la primauté du droit et des droits de l'homme, ainsi que le respect des minorités et de leur protection. À cela s'ajoute un critère économique, c'est l'existence d'une économie de marché viable, ainsi que la capacité de faire face à la pression concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union européenne. Il y a également un critère, ce qu'on appelle de la reprise de l'acquis communautaire, c'est-à-dire la capacité du pays candidat à assumer les obligations d'un État membre. La vague de 2004 a vu l'entrée dans l'Union de 10 pays, l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Slovaquie, Chypre et Malte, et ce n'est qu'en 2007 que la Roumanie et la Bulgarie ont rejoint l'Union, désormais à 27. Nos trois correspondants se trouvent donc dans des pays qui ont un rapport plus ou moins ancien avec l'Europe. L'Allemagne de l'Est a rejoint l'Union en fusionnant avec l'Allemagne de l'Ouest en 1990, alors que la Pologne n'y est entrée qu'en 2004 et la Roumanie encore plus récemment, en 2007.
Nous recevons donc en duplex Laure qui est à Berlin en Allemagne, Jocelyn à Varsovie en Pologne et Thibaut à Iași en Roumanie. Bonjour.
Salut, c'est Iași, non ?
Oui, bonjour à tous, hein. Je confirme, on dit bel et bien Iași. Et avant de commencer et de vous laisser poser vos questions, Antoine et Fabien, eh bien Fabien, un petit mot à toi, je te souhaite bien sûr la bienvenue dans la joyeuse équipe d'LMNSP.
Peut-être pour commencer, et je pense notamment à Jocelyn, dans une ville comme Varsovie, les traces du passé soviétique peuvent être plus ou moins présentes dans l'urbanisme et la physionomie de la ville. Alors comment est-ce que ces marques du passé soviétique apparaissent ? Est-ce qu'elles tentent à disparaître ?
Au contraire, loin de disparaître, elles sont fondamentales dans la morphologie de la ville, puisque Varsovie a été détruite à 85% après la Seconde Guerre mondiale. Donc tout était à reconstruire. Et il y a une véritable symbolique finalement de la ville hein, socialiste qui structure le tissu urbain. On a donc tous les attributs symboliques du pouvoir qui sont encore visibles aujourd'hui, avec nombreuses statues et monuments qui commémorent toute l'armée rouge et les disparus de l'armée rouge. On a également le plan de reconstruction du ghetto juif qui a été fait donc selon les principes du réalisme socialisme qui est parfaitement visible aujourd'hui avec le principe d'aération, de dédensification de la ville et de symétrie et le cœur même hein, de la ville, le cœur même de la ville aujourd'hui économique. Se structure autour d'anciens centres communistes dont la place de la Constitution est un parfait exemple. Cette place de la Constitution avec des formes anti-moderne, néoclassique, symétrique, avec de très vastes allées, de très vastes avenues, qui permettaient à l'époque hein, donc, d'organiser les parades du régime communiste. Donc nous avons finalement une ville qui est fortement structurée par les formes urbaines, inspirée par tout ce qui a pu se faire en URSS.
Mais cette structure, Jocelyn, est-ce qu'elle te semble plutôt refoulée ou assumée dans la politique urbaine de Varsovie ?
Elle n'est peut-être pas assumée totalement dans le sens où il y a eu des débats dans les années 90, notamment autour du palais de la culture, qu'on surnomme un peu la grosse choucroute stalinienne, de savoir s'il fallait détruire ce monument, qui était un cadeau de Staline donc, à la ville capitale, ou le conserver. Le choix a été fait de le conserver. On voit se développer aujourd'hui, surtout tout un tas finalement de bâtiments, l'architecture très moderne, contemporaine, voire américaine, qui contraste fortement avec l'architecture communiste et qui montre que si ce passé n'est peut-être pas refoulé ou ni totalement assumé, on a finalement une sorte de coexistence entre l'avenir, hein, un passé qui a structuré fondamentalement toute l'organisation de la vie politique, économique, sociale du pays pendant près de 50 ans.
Très bien. Et dans une ville, à l'inverse, peut-être comme Berlin, qui a été longtemps séparée, est-ce que la réunification de l'Allemagne a gommé cette séparation Berlin-Est-Berlin-Ouest ou est-ce qu'elle est encore perceptible ?
Mais c'est inédit, mais l'urbanisme berlinois est marqué par la séparation et par le mur. Incroyable. Donc, à l'échelle du tour urbain, il est tombé il n'y a pas si longtemps que ça, donc les traces sont encore relativement perceptibles. Et il y a plusieurs types de marques de la séparation et du passé qui suscitent pas mal de débats. Donc, il y a d'abord les bâtiments politiques, qui sont des symboles idéologiques et emblématiques, comme par exemple le Palais du Peuple, le Volkspalast, ou la Alexandraplatz avec la tour de télévision. Et ces bâtiments sont globalement assumés, pour reprendre la formulation que vous avez utilisée tout à l'heure, parce qu'ils sont marqueurs d'une identité urbaine assez forte, mais ils génèrent aussi des débats importants. Par exemple, le Palais du Peuple est en cours de démolition pour être remplacé par un ancien palais du XVIIIe siècle qui sera reconstruit à l'identique. Ce qui est quand même symboliquement relativement lourd, puisqu'il s'agit d'effacer et de remplacer quelque chose de très fort politiquement à l'époque de la RDA. Et beaucoup de Berlinois l'ont vécu comme une sorte de tentative de gommer le passé. Ensuite, il y a des traces d'un urbanisme spécifique lié aux reconstructions de l'après-guerre et aux forts besoins de logement, une architecture généralement typique de l'époque soviétique. Visuellement, c'est très significatif, comme le disait aussi Jocelyn à propos de Varsovie. Il y a de larges avenues très aérées, rectilignes, comme la Karl Marx Allee qu'on a vu par exemple dans le film « La vie des autres ». Avec des bâtiments massifs, très hauts. Puis en banlieue, par exemple, dans la ville de Marzahn, il y a ce qu'on appelle des Plattenbau, qui sont des barres HLM immenses, particulièrement laides, et qui sont emblématiques de l'Est et qu'on trouve relativement rarement ailleurs. Et ensuite, il y a des différences en termes d'entretien urbain entre l'Est et l'Ouest, puisque les immeubles de l'Est étaient souvent chauffés au charbon avant leur réunification. Et donc, leurs façades portaient, en tout cas jusqu'à il y a 10 ans, des marques noires vraiment très fortes, les fenêtres étaient en très mauvais état, c'était assez sombre et peu entretenu. Donc visuellement, c'était très, très marqué, mais actuellement, c'est de moins en moins perceptible à cause des opérations de rénovation urbaine et d'entretien, et puis aussi à cause de l'embourgeoisement de certains quartiers de l'Est, dont celui où je suis par exemple, qui fait que les habitants ont beaucoup plus de moyens qu'avant pour entretenir et rénover. Par ailleurs, la véritable différence maintenant entre l'Est et l'Ouest tient dans le fait que les quartiers anciennement à l'Est sont devenus des lieux de culture alternative importants, avec beaucoup de bars, de galeries, de salles de concert. Donc c'est le retournement symbolique et culturel est assez fort, et c'est en ça que la différence, je trouve, est la plus perceptible.
Merci Laure.
Alors quelques mots sur la Roumanie aussi, si vous le voulez bien. Alors en ce qui concerne donc Iași, bah évidemment il n'y a pas de rupture Est-Ouest comme c'est le cas pour Berlin. Et je rejoins Jocelyn sur le constat de tout à l'heure sur l'importance de l'héritage communiste hein, dans la ville, ce que Laure a également évoqué d'ailleurs. Et d'ailleurs il faut rappeler qu'en Roumanie, comme dans une grande partie de l'ère soviétique, l'objectif était de créer ce qu'on pourrait appeler un tout urbain lié à l'idéal de l'ouvrier communiste. Alors, qu'est-ce que ça donne dans une ville comme Iași, éventuellement aussi dans une ville comme Bucarest ? Eh bien, on a des quartiers entiers de blocs à proximité de vastes zones industrielles qui semblent aujourd'hui être en piteux état, ou en tout cas des industries qui sont à rénover. Et alors, en ce qui concerne les parties de la ville qui existaient avant le communisme, et notamment la question des centres historiques, eh bien, de nombreux bâtiments ont été rasés, détruits et remplacés, là encore, par des bâtiments soviétiques imposants. L'exemple, je pense, le plus marquant, c'est celui du Palais du Peuple à Bucarest, puisque Ceaușescu a fait raser un quartier entier pour construire un bâtiment immense qui existe encore aujourd'hui. Et dont on ne sait pas très bien que faire. Alors, il abrite des institutions politiques. Une partie est ouverte à la visite au public, mais c'est un bâtiment beaucoup trop grand pour avoir un usage adéquat, on va dire. Et pour l'exemple de Yash, on peut voir, par exemple, que souvent, on a des bâtiments anciens, de beaux bâtiments du 19e. Il y a beaucoup de bâtiments du 19e à Yash, de vrais éléments de patrimoine. Mais juste à côté, eh bien, on trouve un bloc qui gâche toute la perspective. Alors, si en plus, on ajoute à ça la présence de bâtiments récents, construits à partir des années 90, on aboutit à un mélange qui choque un peu l'œil occidental, je dirais. Alors après, la question que posait Fabien sur l'héritage assumé ou refoulé, je ne sais pas très bien si on peut poser cette question d'un point de vue architectural en Roumanie. En effet, les bâtiments sont là, hein, souvent en mauvais état, je le disais, mais la destruction est loin d'être à l'ordre du jour, puisque ces bâtiments servent, ils logent une population, et à l'intérieur, hein, les appartements... sont petits, généralement, mais tout à fait convenables. Je dirais plutôt que cette question de l'assumer, refouler, en fait, elle se pose plus du point de vue des mentalités de la population. Et là, je pense que, sans trop d'hésitation, on peut parler plutôt de refoulement, avec des réflexes dans la génération de nos parents, par exemple, à plus forte raison de nos grands-parents, qui sont ceux du communisme. La démocratie est évidemment en fait acquise depuis les années 90, mais il manque une vraie vie citoyenne faite de débats, d'informations. Tout cela n'est pas encore entré dans les mœurs, et les jeunes générations semblent réclamer cela. Elles voudraient voir changer les choses, cette génération. Elles semblent avoir des revendications, mais qui ne semblent pas être vraiment écoutées par la société.
Alors, on l'a dit en introduction, l'URSS tend à être remplacée par l'Union européenne. Par exemple, Jocelyn, à Varsovie, quelles sont les traces concrètes de l'UE dans le quotidien de la ville capitale de la Pologne ?
Oui, donc à Varsovie, il faut bien noter que l'Union européenne joue un rôle majeur dans la recomposition du centre-ville, notamment, puisque il ne faut pas oublier que Varsovie va être l'une des villes hôtes de l'Euro 2012 et qu'à ce titre, l'Europe donne à la Pologne de nombreux crédits. Donc, l'Union européenne participe notamment à la rénovation des réseaux de transport. C'est très net lorsqu'on se balade en ville et que l'on voit les vieux tramways qui ont peut-être 20-30 ans, donc qui croisent sur les mêmes rails des tramways modernes, qui sont même parfois mieux équipés que ce qu'on peut voir en France ou à Lyon, avec des écrans de télé à l'intérieur qui diffusent des informations ou des vidéos, et même avec des annonces sonores, ce qu'on n'a pas dans le métro parisien par exemple. Donc déjà une différence dans l'équipement, mais également on voit un peu partout en ville de nombreux panneaux les chantiers ou apparaît le drapeau de l'Union européenne, donc qui participe au financement de soit la construction de nouveaux bâtiments ou au contraire la rénovation de bâtiments déjà existants. Cette politique de soutien finalement aux équipements et aux infrastructures est aussi corrélée à une politique de rénovation culturelle, puisque par exemple il y a actuellement au palais de Villeneuve, qui est une des résidences royales de Varsovie, une véritable restauration très coûteuse et qui est financée par l'Union européenne. Donc on voit finalement que la Pologne, qui a eu quand même des difficultés économiques dans les années 90, par l'Union européenne, a bénéficié d'un apport non négligeable pour pouvoir rattraper le retard, notamment le retard en termes d'infrastructures qu'elle a pu accumuler pendant 50 ans.
Très bien. Et toi, Thibaut, Ayash, qu'est-ce que tu peux nous dire des marques de l'Union dans un pays qui est encore plus récemment entré dans l'Union ?
Eh bien, Antoine, c'est un pays qui effectivement est rentré plus récemment dans l'UE et c'est aussi un pays qui est plus en retard, bien plus en retard par rapport aux standards européens. Si je reviens une seconde sur la question des financements européens, dont Jocelyn vient de dire un mot, il faut se souvenir que les fonds structurels européens sont distribués dans chaque région européenne en fonction de la richesse de la région. Et les régions les plus pauvres, celles dont le produit intérieur brut par habitant est inférieur à 75% de la moyenne de l'Union, c'est-à-dire un PIB très bas, eh bien ces régions-là reçoivent des fonds au titre de l'objectif convergence, pour essayer de combler le retard et de converger vers les standards européens. Eh bien figurez-vous, ce n'est pas vraiment une surprise, mais figurez-vous, Antoine, Fabien, que toutes les régions de la Roumanie entrent dans cette catégorie. En fait, la Roumanie est le pays le plus pauvre de l'Union, juste après la Bulgarie. Alors, quelle est l'importance de ce financement européen ? Eh bien, juste un chiffre, l'Union donne à la Roumanie 19 milliards 700 millions d'euros de fonds structurels et de fonds de cohésion. Pour vous donner un exemple, je parlais l'autre jour avec un responsable de la mairie de Yach qui expliquait que le budget de la ville est de 140 millions d'euros seulement, et si on enlève les frais de fonctionnement ou le remboursement des dettes dues aux investissements précédents, eh bien les sommes appartenant à la mairie pour l'investissement sont dérisoires. Donc l'argent de l'Union est bel et bien primordial. D'ailleurs, à Yach, notons que le nombre de bâtiments en travaux est impressionnant, que ce soit d'ailleurs avec ou sans fonds européens, le théâtre de la ville, de nombreuses églises, le grand palais de la culture, voilà, sont tous en travaux de rénovation actuellement. Alors les fonds européens, je le disais, sont utilisés dans tous les domaines, et certains voient dans cette utilisation un petit peu partout eh bien, une espèce de perte de temps et de moyens. À les écouter, il vaudrait mieux se concentrer sur quelques points fondamentaux, par exemple sur l'emploi vraiment en fonction des possibilités du marché. Mais il faut bien se souvenir que dans le même temps, les pays de l'Est, dont fait partie la Roumanie, ont des défis de toutes sortes à régler en même temps et dans tous les domaines, que ce soit la question de l'européanisation, avec la nécessité de rattraper l'acquis communautaire, les conséquences de la mondialisation et de l'ouverture au marché. On a ici toute une somme de conséquences, et on se demande si, effectivement, il ne faut pas mieux essayer de les traiter.
Et là, on a beaucoup parlé donc d'urbanisme, d'Union européenne, de questions un peu politiques et un peu abstraites. On voudrait maintenant parler un peu de la société. Donc, comment est-ce que les Est-Européens, comment les gens vivent la transition, ou ont vécu la transition? Quel regard ils portent sur leur pays et sur l'Union européenne?
Du point de vue de la transition, il faut bien noter que les Polonais sont passés finalement d'une période où la crise était la normalité, aujourd'hui à une période marquée par l'apparition d'une société de consommation assez présente en ville. Ça se matérialise tout bonnement par la multiplication des centres commerciaux modernes ou les grandes enseignes internationales. Nous sommes donc passés d'une période de pénurie à une période donc de croissance assez importante. Une croissance cependant qui a pu amplifier certains, au regard de certaines couches de la population, certaines inégalités en termes de richesse et de répartition de la richesse. Tous les Polonais s'accordent en tout cas à dire que l'économie de marché était nécessaire dans les années 90, mais les gens ont conscience que cette transition s'est faite au prix finalement d'importants sacrifices. Le chômage était encore de 2 millions dans les années 90, au début des années 90. Mais aujourd'hui, c'est surtout finalement le miracle économique polonais qui retient l'attention. Et les Polonais ont vu d'ailleurs leur niveau de vie s'améliorer depuis l'adhésion à l'Europe.
Et toi alors, donc, comment les Berlinois de l'Ouest et les Berlinois de l'Est sont-ils devenus les simples Berlinois après la chute du mur?
Plus que les Berlinois, je parlerai plus des Allemands en général. C'est déjà que ce qui fait la spécificité du travail sur le passé en Allemagne, c'est sans doute la différenciation entre l'Est et l'Ouest, qui assimilent différemment les événements et doivent retrouver un rythme de croisière commun en ce qui concerne l'appréciation du passé. Et actuellement, en Allemagne, le passé et l'histoire sont en cours de Verarbeitung, ce qui veut dire, enfin, en quelque sorte, en cours d'appropriation et de réflexion. Et après une phase de refus total de l'histoire et une période d'occultation où on voulait oublier, on revient peu à peu sur certains éléments et certains événements de l'histoire de la RDA. Et en fait, il y a un double mouvement. La période de pré-réunification est à la fois mythifiée et dénoncée. Et deux éléments sont révélateurs de ce phénomène, à mon sens. C'est d'une part les résultats des élections régionales. Et je pense que c'est pas un hasard si les partis de gauche comme Die Linke, qui est un parti qui émane de l'ancien SED, qui est l'organe politique de la RDA, si ce type de parti ont un succès important dans les Länder de l'Est, par exemple, où ils sont la deuxième force politique. Et cette victoire est révélatrice d'une certaine ambiguïté rémanente dans les rapports à la politique et à l'idéal pré-réunification, puisque les forts taux de chômage et les processus de villes rétrécissantes qui perdent de plus en plus d'habitants parce qu'elles sont plus du tout attractives sont autant d'éléments face auxquels les gens éprouvent une certaine nostalgie de l'Est, quoi. Et à l'inverse, il y a de plus en plus de travaux sur la part noire de l'histoire de la RDA. Et par exemple, en ce moment, il y a énormément de recherches sur les centres de rééducation sociaux et politiques, par exemple à Torgau, qui est une ville de l'ancienne Allemagne de l'Est. Et c'est globalement la grande question du retour à la vie normale qui se pose et de la réadaptation, plus que celle du refoulement ou de l'acceptation, puisque les débats se forment globalement sous forme individuelle. C'est comment un individu qui a eu telle fonction, par exemple de rééducateur politique social dans un centre spécial d'internement, quoi, peut retourner à une vie quotidienne normale.
Alors pour conclure tous les trois, on va vous demander tout simplement si vous deviez décrire la ville où vous vous trouvez en un adjectif, lequel serait-il? On commence avec Jocelyn, peut-être.
Je l'utiliserais comme adjectif passionné. Parce que c'est un pays de gens qui sont effectivement passionnés donc, par leur culture, par leur histoire, par leur ville, et qui sont passionnés également par leur actualité et par, par le futur, finalement. Ils sont très investis. Donc,
Très bien. Et du côté de Berlin, Laure?
Moi, je dirais désinvolte, parce que la ville est pas du tout à, correspond pas du tout à l'Allemagne. L'adjectif est vraiment uniquement destiné à Berlin, par mon sens. Mais ouais, désenvol, parce que voilà, les choses se font un peu comme ça, par-dessus la jambe, sans un sentiment de rigueur très fort.
Ok, merci. Et Thibaut, qu'est-ce que tu pourrais dire sur Yash ou sur la Roumanie en général?
Alors, il n'est jamais facile hein, de tout résumer en un mot, en un adjectif, mais bon, je pense que je choisirais pour moi déconcertante. Puisque on a l'impression que l'avenir, notamment grâce à l'Europe, hein, mais aussi à une situation économique qui a été moins mauvaise hein, que d'autres pays de l'Est en Roumanie, et bien que donc cet avenir promet un développement soutenable, on va dire, promet de belles choses. En même temps, cette voie reste incertaine évidemment, et le problème c'est que les Roumains semblent relativement peu y croire. Pour avoir discuté avec pas mal d'étudiants roumains, et bien beaucoup disent d'abord qu'ils pensent partir de Roumanie s'ils le peuvent, c'est le premier point. Et deuxième point, eh bien, ils se font du souci pour leurs parents, hein, puisque l'impact de la crise a été fort en Roumanie également. Le gouvernement a réduit beaucoup les salaires des fonctionnaires, mais aussi le versement des retraites, et beaucoup donc de ces étudiants eh bien, se demandent comment leurs parents vivront avec une retraite qui sera sans doute très faible et que eux ne pourront pas forcément prendre en charge. Donc voilà, c'est un petit peu déconcertant, on a envie d'y croire, mais évidemment l'avenir nous dira si on a raison ou pas de le faire.
Eh bien c'est la fin de cette émission et de ce dossier de Le Monde ne suffit pas. Merci de votre fidélité encore une fois. Nous remercions chaleureusement Laure, Jocelyn et Thibaut pour ce duplex international et leurs analyses.
Nous remercions également Xavier à la technique. Quant à nous, nous vous donnons rendez-vous d'ici une semaine.
En espérant que d'ici là, bien sûr, jamais le monde ne vous suffira.